RCF. C'est aux sources des parfums du monde que je vous emmène aujourd'hui avec mon invité dans cette nouvelle émission Visage. Depuis la nuit des temps, les hommes et les femmes ont été sensibles aux parfums des arbres, des fleurs, des résines. Puis ils ont su réaliser des parfums de plus en plus sophistiqués que nous connaissons aujourd'hui dans l'industrie mondialisée du luxe. Mais pour réaliser ces parfums, il faut des matières premières, essence de rose, jasmin, santal, encens, benjoin et tant d'autres. Dominique Roch, pendant plus de 30 ans, vous avez été acheter ces matières premières rares, précieuses, dans une cinquantaine de pays et toujours, nous allons le voir, en relation étroite avec les planteurs, les cueilleurs, les propriétaires de distilleries. Une vie passion et passionnante que vous avez racontée dans deux livres des éditions Grasset, Cueilleur d'essence et plus récemment Parfum des forêts, dans lequel vous racontez votre amour des arbres. Alors Dominique Roch, au plus loin de vos souvenirs, quel est le premier parfum qui a marqué l'enfant que vous étiez ?
Je crois vraiment, à chaque fois que je me repenche sur ce passé lointain, ce qui revient, c'est une combinaison d'odeurs de forêt et dans la forêt d'odeurs de muguet. Et finalement, c'est assez étonnant pour moi aujourd'hui parce que je me rends compte que ma vie s'est orientée autour de ces deux choses, c'est-à-dire la forêt et les parfums, et avec une importance particulière, peut-être un goût particulier pour les parfums de la forêt, des arbres et des bois.
Ce qui n'est pas totalement étonnant avec le père que vous avez eu.
Alors certainement, c'est vrai.
Il faut dire quelques mots sur votre père quand même pour commencer avant de parler de votre vie.
Mon père faisait partie de cette génération qui est devenue adulte après-guerre et qui avait un appétit au sortir de la guerre de grand souffle, de souffle du large, d'aventure. Lui est parti chercher ça aux États-Unis d'Amérique, où il a eu une vie relativement aventurière parce qu'il est parti sans rien à part un diplôme de l'école supérieure du bois dans sa poche et de petits travaux dans les scieries, en balayage dans les cinémas. Il a fini par se retrouver bûcheron et avec la découverte d'un métier qu'il n'avait pas exercé auparavant. Et il a vécu des aventures qui l'ont amené jusqu'en Alaska et jusqu'à ce que je raconte dans un de mes livres, à devenir bûcheron des plus grands arbres de la Terre,
c'est-à-dire
des
séquoias. Les grands arbres, les redwoods de Californie.
Voilà.
Il a participé à ce qu'on appelle aujourd'hui cette déforestation de...
Oui, alors elle était déjà très avancée. En 1950, je dirais que 80 ou 90% de la forêt de redwoods avait déjà été coupée en un siècle, tout juste, puisque les premières coupes, c'est 1850, avec la ruée vers l'or en Californie, qui a précipité le besoin de bois. Et donc, un siècle après, on coupait encore des arbres, même si déjà beaucoup de voix s'étaient élevées en disant « Mais attendez, c'est pas possible, c'est les plus belles cathédrales forestières de la Terre, on peut pas les anéantir ». On considère aujourd'hui que les Américains ont réussi à en sauver peut-être 3 à 4% dans les parcs.
Et le fait que votre père ait eu cette vie de bûcheron, et puis après, il faut le dire aussi, il a planté beaucoup d'arbres, il a planté plus de 1000 arbres, je crois, dans les Landes. Est-ce que le fait que votre père ait participé à ça explique ce lien que vous avez non seulement avec les arbres, mais aussi avec le désir de les protéger, de les préserver ?
Alors, je suis immensément reconnaissant à mon père de la chose suivante, c'est de m'avoir fait comprendre très jeune qu'on pouvait être un amoureux des arbres, ce qu'il était complètement, et vendeur de tronçonneuses. C'est pas très facile à expliquer ça aujourd'hui, ou même toujours. C'est-à-dire que on voit souvent l'abattage de l'arbre comme un crime, une mauvaise chose.
Aujourd'hui, on a vraiment cette sensibilité-là.
Oui.
Avant, beaucoup moins. Enfin, avant, jusqu'aux années 70, oui. On ne se posait pas vraiment la question.
Et en fait, quand on raisonne comme ça, on passe à côté de beaucoup de choses, de beaucoup de la complexité et de la beauté de la forêt. Je pense que la condition humaine fait qu'il faut couper des arbres. La grande question, c'est quels arbres, quand, où et comment. Et entre l'entretien d'une superbe futaie jardinée dans les forêts françaises et puis les abattages monstrueux sous les tropiques, ça n'a absolument rien à voir. Rien à voir.
Alors Dominique Roque, on va revenir sur les arbres, votre amour des arbres, puisque vous en parlez dans Le Parfum des Forêts que vous venez de publier. Mais vous auriez pu être bûcheron comme votre père, vous l'avez été pendant une courte période, mais vous avez mené pendant une longue période, on peut le dire, pendant 35 ans, et vous êtes encore conseiller dans ce domaine-là. Un métier particulier que j'ai découvert grâce à vous. Vous êtes sourceur. Alors j'ai fait l'essai autour de moi ces derniers jours pour dire aux gens, je vais rencontrer un sourceur, vous savez ce qu'il fait? Et tous m'ont répondu, bah oui, il cherche des sources, il a un bâton, voilà, vous me faites le geste, il a un bâton de coudrier pour chercher des sources. Eh ben non, c'est pas ça, être sourceur. Alors vous pouvez nous dire, Dominique Roque, ce que c'est qu'être sourceur?
Oui, oui, je comprends parfaitement la réaction des gens parce que le mot de sourcier est bien plus familier à nos oreilles que celui de sourceur. Sourceur, c'est un peu une création peut-être du métier du parfum, pas seulement. C'est-à-dire que c'est le moment où, au lieu de dire les gens qui vont chercher des matières premières à travers le monde sont des acheteurs, on a dit non, c'est pas que des acheteurs, ce sont des sourceurs. Et moi, je fais partie des gens, je ne suis pas le seul, qui ont participé à cette évolution, qui est au fond très intéressante, parce que l'acheteur, ça dit bien ce que ça veut dire. Il peut faire des achats en restant dans son bureau, ou il peut éventuellement se déplacer, mais la relation qu'il va établir à la source, c'est une relation d'affaires, une relation, combien tu me vends, est-ce qu'il y a la qualité, est-ce qu'il y a le volume, est-ce qu'il y a le prix.
Mais vous ne nous avez toujours pas dit ce que vous achetez.
Alors... Dans l'industrie du parfum, moi, je me suis dédié pendant 3 décennies à aller chercher les matières premières naturelles et uniquement naturelles qui rentrent dans la composition des parfums. Pour être très illustratif, j'allais chercher de l'essence de patchouli en Indonésie, de l'essence de rose en Bulgarie, du jasmin en Inde.
Et du santal, donc des essences aussi issues des arbres.
Bien sûr.
Issues des plantes et issues des arbres.
Bien sûr. Les fameuses résines et les fameux baumes, il y a des arbres qui nous donnent, qui font ce cadeau extraordinaire. Le peut-être le plus célèbre et le plus ancien dans l'histoire de l'humanité, c'est l'encens, qui pousse, ce sont des petits arbres qui poussent dans la corne de l'Afrique et qu'on gemme, c'est-à-dire dont on enlève l'écorce pour leur faire produire la résine, depuis 5000 ans.
Visage, RCF.
Alors Dominique Roque, vos livres, vos deux livres, Cueilleur d'essence, où vous racontez vraiment ce travail de sourceur, et puis ce nouveau livre, Le Parfum des Forêts, où vous parlez là plus de votre relation avec les arbres, mais aussi en tant que sourceur, sont vraiment passionnants. Pourquoi je dis qu'ils sont passionnants? Parce qu'on sent votre amour de cette quête des essences qui vont donner les meilleurs parfums, parce que vous avez travaillé pour les grands parfumeurs de France, mais surtout, j'ai trouvé passionnant par votre relation avec les humains que vous avez rencontrés au cours de ces nombreux voyages autour de la planète. On va parler de ces rencontres, on va parler de ces voyages, parce que j'ai envie de partager avec nos auditeurs ces 35 ans de vie de sourceur. Vous dites que vous êtes tombé un peu par hasard dans ce métier. Alors, le hasard, c'est souvent des rencontres. Qu'est-ce qui s'est passé qui vous a mis sur cette voie de devenir sourceur?
Tout à fait, c'est le hasard et c'est les rencontres. J'ai rencontré des jeunes gens dans les Landes qui voulaient absolument trouver des idées nouvelles de développement pour leur région, parce qu'ils étaient farouchement décidés à la faire réussir sur un plan économique et qui, après une visite au Québec, où ils avaient vu les Québécois distiller des branches de conifères, se sont dit « mais pourquoi on ne fait pas la même chose avec le pain maritime dans les Landes ?» Et ils l'ont fait, et ils ont développé progressivement une société dans laquelle je suis resté longtemps, et où moi je m'étais intéressé aux sous-produits de la forêt, plutôt sous l'angle de la valorisation énergétique. C'était la fin des années 70, on cherchait déjà à substituer du fioul dans des opérations de chauffage. Beaucoup d'eau a coulé sous les ponts depuis. Et donc, j'ai eu, avec cette rencontre, avec l'essence d'aiguilles de pain maritime dans les Landes, la rencontre, peut-être que j'attendais inconsciemment, entre le goût des arbres et de la forêt et la découverte de cette merveilleuse affaire du parfum et de toute l'industrie qui est derrière.
Vous êtes parti, vous le dites, assez vite dans un pays pas très loin d'ici. On va commencer par un pays voisin, l'Espagne. Vous êtes parti en Andalousie. Et là, vous êtes parti acheter du ciste. Déjà, il faut nous expliquer qu'est-ce que le ciste.
Le ciste, alors, c'est une chose peu connue et totalement merveilleuse, notamment le ciste labdanum, qui est un des représentants de cette famille, qui est présent un peu sur tout le pourtour méditerranéen, mais surtout, on en trouve des grandes étendues en Andalousie et au Portugal. Et alors, ce ciste, il a la particularité l'été, sous l'effet de la chaleur, de sécréter une gomme qui couvre ses feuilles et qui est d'une odeur inouïe. C'est l'une des odeurs les plus fortes du règne végétal. Et alors, depuis l'Antiquité, on cherche à capter cette fameuse gomme labdanum. Et ça a commencé par des bergers qui, en Crète ou à Chypre, faisaient paître leurs troupeaux de brebis à travers les étendues de ciste et qui, le soir, peignaient leur toison pour en récupérer la gomme et en faire des boules odorantes qu'on brûlait de la même façon qu'on brûlait de l'encens. Donc, le labdanum, il est déjà présent à l'époque de la Bible. Et moi, j'ai rencontré cette histoire beaucoup plus tard et j'ai eu ces rencontres assez inouïes dans l'arrière-pays reculé d'Andalousie avec les familles de gitans qui, par tradition, faisaient cette chose extraordinaire qu'ils étaient bouilleurs de gomme. On cueillait les rameaux, ils les faisaient bouillir et par une suite de produits différents, on extrayait la gomme. Donc, une première rencontre fabuleuse devant l'intensité et la beauté de cette odeur, et immédiatement saisie par cette chose que j'ai retrouvée partout dans le monde, c'est-à-dire qu'à chaque source du parfum, les vrais sourceurs, ce sont ceux qui vivent là. Et ce sont les gens qui ont maintenu cette activité envers et contre tout, à travers les siècles et même les millénaires. Et ça, je dis franchement, depuis ma première rencontre, la gomme labdanum, jusqu'aux plus récentes, c'est-à-dire les résines d'encens, pour moi, c'est le sentiment de rencontrer l'histoire de l'homme, l'histoire de l'humanité, encore plus que simplement une affaire de parfum.
Et on le voit à travers ce livre, vous avez vécu ces rencontres et vous avez plongé quelque part dans l'histoire des peuples que vous avez rencontrés. On va le voir par exemple en Bulgarie, où vous êtes parti pour chercher la fameuse rose de Bulgarie. Vous nous plongez dans votre récit complètement dans, je dirais, la fin de la guerre froide ou la période de la guerre froide qui vient juste de s'achever, où il y a encore un désir de s'ouvrir, mais pas trop. C'est assez impressionnant ce que vous avez vécu en Bulgarie.
Impressionnant, intéressant et au final très émouvant, parce que la rose bulgare, à l'époque de ce qu'on peut appeler l'âge d'or des parfums naturels, c'est-à-dire la fin du 19e siècle et jusqu'aux années 30, il n'y avait de rose que bulgare, si je peux dire. C'est-à-dire que comme le prestige de la rose bulgare était absolument incroyable.
Elle beaucoup était plus que celle de Grasse, parce qu'on parle toujours des parfums de Grasse et de la rose.
Alors celle de Grasse ne donnait pas d'essence, on pouvait n'en faire qu'une absolue. Mais l'essence de rose, qui était quand même au cœur vraiment des parfums de cette époque, venait de Bulgarie. Et c'est devenu une fierté extraordinaire. Il y avait des sociétés formidables, il y avait des distilleries formidables, il y avait des champs de roses dans tous les villages. C'était quelque chose d'étonnant.
Ça, jusqu'aux années combien, redites-nous?
Jusqu'aux années 30 et jusqu'à la guerre en Bulgarie. Et ce qui se passe, c'est que l'après-guerre, c'est le communisme, et le communisme met un terme à tout ça.
Et donc les distilleries vont se fermer à ce moment-là?
On les nationalise et donc on les enlève aux familles qui possédaient ça. J'ai suivi ces aventures de très près, puisque je suis allé en Bulgarie à partir des années 90, j'ai suivi la réhabilitation d'un certain nombre de ça et comment on a restitué progressivement. Et c'était assez bouleversant de voir un jeune homme d'une trentaine d'années qui se rendait compte que tout d'un coup, il allait pouvoir redémarrer l'aventure de son arrière-grand-père et de son grand-père qui étaient des producteurs de roses connus dans le monde entier.
Là, vous nous parlez de Nicolas, non?
Alors, je parle de Philippe, qui est un autre. Et
Parce qu'il y a toujours des humains derrière, il y a toujours des personnes. Là, en Bulgarie, ça a été des rencontres. Donc, alors, c'est Philippe, mais il y a Nicolai
et Vesela.
Et Vesela,
oui,
on parlait d'eux aussi.
Ben oui, parce qu'en Bulgarie, je me suis rendu compte qu'il fallait absolument qu'on arrive, nous, ma société, à faire partie de ce renouveau et d'être à nouveau des étrangers qui seraient autorisés à venir soutenir et participer à cet effort de réhabilitation de la rose.
Mais là, vous étiez vu avec méfiance, à la fois...
Très grande méfiance.
On est en 1994, à peu près. Hein.
On ne voulait pas laisser les étrangers revenir dans ça. Et il m'a fallu plusieurs années pour arriver à trouver une distillerie, la racheter, la réhabiliter, planter des champs et faire partie de cette nouvelle histoire qui redémarrait et qui maintenant va à nouveau très très bien.
Ça faisait partie de votre travail, Dominique Roc, pas seulement d'aller acheter des produits, mais de participer à des plantations, à des créations d'entreprises, de distilleries.
Oui, alors dans la première partie de mon parcours, effectivement, ça en faisait complètement partie. Ma société avait compris que l'avenir de ces produits naturels passait par le fait de les fabriquer là où ils poussent. Ce qui est une démarche assez différente de celle de Grasse, où on avait plutôt tendance à dire « faisons venir tous les produits qui peuvent voyager dans nos ateliers à Grasse parce que nous avons la connaissance et nous avons tout le savoir-faire qui va permettre de faire les meilleurs produits ». Et donc, la démarche inverse qui a consisté à dire « Ah, mais vous avez peut-être oublié que dans les années du début du siècle, les grandes sociétés grassoises allaient au contraire s'implanter partout à la source. Ils allaient à Cayenne, ils allaient au Congo, évidemment, ils allaient au Tonkin. Et évidemment, toute cette histoire était très liée au développement de l'Empire colonial français. Donc on avait oublié cet appétit d'aller à la source et il y a eu une redécouverte à laquelle nous nous sommes... consacré.
Alors c'est intéressant parce que vous nous avez parlé des gitans quand vous étiez en Andalousie qui récoltaient le ciste. Là en Bulgarie, c'était les tziganes.
Ben voilà. Alors ça...
comment ça se fait que ce soit souvent des peuples nomades, hein,
ouais.
Gitans, tziganes, qui récoltent ces produits?
Oui, il y a des choses très intéressantes qui peut-être justifieraient un livre à elles toutes seules, c'est-à-dire le sort de ces peuples, ce qu'ils sont devenus aux deux bouts de l'Europe. Moi, ça m'a complètement fasciné. Quand je suis arrivé en Bulgarie, que j'ai réalisé que la cueillette se faisait beaucoup par ces familles gitanes, des villages autour, ça m'a immédiatement ramené 10 ans en arrière en Andalousie. D'un côté, les gitans, de l'autre, les tziganes. Les noms varient. Aujourd'hui, dans le monde anglo-saxon, d'ailleurs, on ne peut plus utiliser ces mots. Il faut les appeler Roma, les Roms. Alors ça, c'est... On arrive dans notre époque qui fait...
C'est politiquement correct, attention.
Exactement. Mais enfin, en Espagne, on dit bien los gitanos et les tzigoiners, les tziganes en Bulgarie. Et oui, je crois qu'il y a une parenté, là aussi très émouvante, où finalement... de peuples qui, en permanence, ont gardé cette notion d'activité sporadique, de cueillette. Voilà, cette idée de la cueillette.
Et donc, compatible avec leur vie itinérante. On vient, on s'arrête, on cueille pendant quelques semaines.
Oui, mais même ça va au-delà, parce que dans les deux cas, ils ne sont plus très itinérants. Ils le sont marginalement. En Espagne, ils sont implantés dans des villages et on dit « Ah, son pueblos de gitanos », ce sont des villages où il y a les gitans. Et j'ai connu la même chose en Bulgarie, où il y avait des choses extraordinaires, des villages où le physique de ces gens faisait penser à l'Inde du Sud, c'est-à-dire là d'où ils viennent originellement. Et peut-être des siècles ont passé et eux n'ont pas beaucoup changé.
Dominique Roc, nous poursuivons sur RCF cet échange avec vous, vous qui êtes sourceur, donc partir dans les différents pays pour être à l'origine, à la source de ce qui va servir au meilleur parfum du monde, trouver ces essences rares, ces bois rares. Vous nous emmenez cette fois-ci au Laos. un pays que vous aimez bien. Vous y êtes allé pendant de nombreuses années pour découvrir un produit, alors que je ne connaissais pas du tout encore. J'ai découvert plein de choses en vous lisant, c'est incroyable. Vous, vous alliez là-bas pour acheter du benjoin.
Benjoin.
Benjoin. Alors, qu'est-ce que c'est que le benjoin?
Alors, même chose, c'est encore une de ces histoires extraordinaires de ce que j'appelle les arbres à parfum. Certains arbres, quand on fait très attention à chaque arbre, un procédé, quand on enlève leur écorce, on suscite une exudation et ils nous donnent des résines, des baumes, le vocabulaire change. L'arbre à benjoin, c'est un arbre qui s'appelle le styrax du Tonkin, qui peut faire des grands arbres, mais qu'on peut commencer à gémer à l'âge de 10 ans, et qui donne, on décolle l'écorce sans l'enlever complètement, et on laisse la résine de benjoin s'accumuler entre le tronc et l'écorce, et puis quelques semaines après, elle durcit à l'air, et les récolteurs du nord du Laos viennent prélever ce qu'on appelle des larmes de benjoin, qui est une matière magnifique, qui sent la vanille, qui sent à la fois le bois et la vanille. Donc cette rencontre du bois et de la vanille m'a toujours paru sublime. Et d'ailleurs, dans les gousses de vanille qu'on étudie, souvent on dit « Ah, j'ai une odeur boisée », etc. Donc voilà, on joue avec ça. Donc le benjoin sent la vanille, et à tel point, tellement séduisant, qu'il existe, Louis XIV faisait des teintures de benjoin qu'on se mettait sur le visage parce que c'était bon pour la peau et en même temps, ça sentait très bon. Donc là encore, on a une histoire extraordinairement archaïque et on appelait ça le benjoin du Siam. Donc le Siam, pourquoi?
C'est la Thaïlande, c'est l'ancien nom de la Thaïlande.
Et en fait, il était exporté du port de Bangkok, mais en fait, il avait déjà fait un chemin inouï. Il venait des montagnes tout à fait du nord Laos, aux confins du Vietnam et de la Chine, et uniquement de là. Donc, histoire magique à nouveau d'une source presque cachée et dont on ignorait tout.
Et donc vous, par votre métier, vous avez dû vous rendre dans ces zones-là qui sont des zones perdues, enfin le Nord Laos, il faut imaginer, c'est vraiment le lieu des minorités ethniques et c'est pas facile d'accès, j'en sais quelque chose puisque je me suis rendu par là-bas. Et là, vous avez rencontré un homme incroyable. Et ça, j'insiste dans votre métier, toutes les rencontres incroyables que vous avez faites avec soit des locaux, des gens vraiment vivant sur place, c'est la majorité des cas, mais parfois avec des Français. Et là, c'est le cas. Vous avez rencontré Francis Chagnot. Vous dites pas son nom, mais j'ai été faire des recherches parce que je me suis dit, cet homme-là, j'aimerais vraiment le rencontrer et faire un visage avec lui. Parce que, allez, parlez-nous de lui, parlez-nous de Francis.
Alors, c'est une de mes rencontres les plus extraordinaires pour une raison très simple. Francis Chagnot, c'est un ingénieur agronome français qui avait fait sa carrière à la FAO, une carrière tout à fait honorable et intéressante. Il se baladait en Afrique pour faire des études sur l'élevage, sur un certain nombre de choses.
FAO, pour ceux qui ne savent pas, Food Agriculture Organization, c'est la grande organisation internationale
des Nations Unies, sur l'agriculture et la faim en général. Puis un jour, on l'envoie en mission au Laos, Francis, et on lui dit « ça serait intéressant d'étudier tout ce qui pourrait sortir des forêts du Laos à part le bois ». Il fait ça, le Laos est complètement fermé, c'est extraordinairement difficile, il n'y a pas de route, pas de transport, les militaires qui sont au pouvoir sont extraordinairement méfiants. Il fait son rapport et il se rend compte, il a un déclic, il se rend compte que s'il donne son rapport et qu'il revient à la FAO, rien ne va se passer. En fait, ça restera dans un tiroir. Et lui a été tellement séduit, tellement touché par ce qu'il a vu et ce qu'il a perçu de ses peuples et de ses villages, qu'il démissionne de la FAO et il s'efforce de créer une société au Laos en 1989, c'est-à-dire que ça paraît vraiment très difficile. Pays totalement communiste, totalement fermé.
Ce qui est encore le cas.
Et il va réussir. Il va réussir. Et Francis, pour moi, est un exemple de comment, sur une activité, une vraie activité, on met en accord ses idéaux et ses idées.
C'est un pionnier du développement durable, hein,
Complet.
Vous le dites dans votre livre.
Il a, pour moi, dans l'univers du parfum, il est l'inventeur du développement durable.
Vous dites quelque chose d'important sur lui dans votre livre. Vous dites, avec 15 ans d'avance, il avait compris comment notre métier finirait par reconnaître l'importance vitale du lien et de l'éthique dans les relations avec les planteurs. premier maillon essentiel et généralement négligé de la chaîne du parfum. Ça, c'est important, ce passage-là. Parce qu'on se dit, bon, les grands parfumeurs, on est dans le monde du luxe, ils s'approvisionnent, ils doivent certainement chercher de faire du bénéfice, c'est ce qu'on leur demande dans leurs entreprises, donc de chercher des produits bon marché, même s'ils sont toujours chers, hein, mais c'est des produits bon marché. Et vous, vous dites, il faut que l'on aide ces petits producteurs sur place, ces cueilleurs. On ne peut pas faire fi de ce travail. Vous pouvez nous expliquer comment s'est développé cette conscience-là chez vous et dans le monde du luxe, dans le monde des parfums?
Oui, alors moi j'ai eu la chance, c'est vraiment une chance, de commencer à l'envers de bien des parcours dans l'industrie du parfum. Souvent les gens commencent leur carrière en étant dans des équipes de marketing très proches des marques. Qu'est-ce qu'il faut créer comme parfum? Qu'est-ce qu'il faut lancer? Qu'est-ce qu'il faut raconter comme histoire? Ou bien dans des laboratoires techniques d'analyse ou alors le gratin qui est donc parfumeur, qui sont les créateurs. Mais tous ces gens-là sont vraiment dans la partie aval du travail. Moi, j'ai eu la chance, donc parce que je vous ai raconté, de découvrir la partie amont. Et au bout d'un moment, c'est absolument frappant, en se disant, mais la distance entre la cueilleuse de roses en Bulgarie et mon ami maître parfumeur Alberto Morillas ou Jacques Cavalier,
elle est immense.
Et pas parce que ces gens-là font mal leur travail, simplement parce qu'ils ne peuvent pas tout faire. Et donc je pense, et c'est à quoi j'ai essayé de me consacrer, comment peut-on raccourcir et réconcilier en quelque sorte toute cette histoire qui, c'est la même histoire depuis la cueillette de l'une du million de roses qui va faire un litre d'essence et son utilisation en quantité infime dans un flacon. Comment peut-on réconcilier et faire se rencontrer ces deux mondes? Et c'est ça que j'ai voulu faire, qui m'a paru tellement important, à l'heure où on peut se poser des tas de questions en disant « mais au fond, ce que tu découvres, l'encens à 5000 ans, et puis chaque histoire, la rose qui commence avec les Perses il y a des siècles, est-ce que ça va durer toujours? Est-ce que c'est une évidence? Ou est-ce qu'il faut prendre conscience de la fragilité, de la chance extraordinaire qu'on ait que ça dure toujours? » Et c'est ça que j'ai voulu vraiment faire ressortir dans mon travail.
Mais Dominique Roch, soyons clairs, est-ce qu'il y a une vraie conscience éthique et sociale aujourd'hui dans ces grandes entreprises de parfums de luxe, un vrai souci de la condition de vie des cueilleurs à Madagascar, au Laos, au Somaliland?
Alors je vais dire oui, mais qu'elle est très récente. Il faut être tout à fait honnête là-dessus.
C'est-à-dire?
Et c'est une vague qui a 15 ans, pas plus. Non pas qu'avant on était toujours méchant, qu'on faisait toujours des choses mauvaises, mais je dirais que cette prise de conscience de l'importance de ce qui se passe à la source, et effectivement, comme vous le dites, de l'importance du sort des cueilleuses de gousses de vanille à Madagascar ou de fleurs de jasmin dans le Tamil Nadu, elle est très récente. Elle est très récente et soyons honnêtes, je pense qu'elle est due, en partie au moins, à l'évolution du consommateur qui a vu des reportages, qui a vu des émissions à la télévision sur Madagascar. Il y en a eu beaucoup en disant tout d'un coup, mais attends, on me dit que mon parfum est génial parce qu'il y a de la vanille de Madagascar dedans, mais là j'ai vu un reportage, ça n'a pas l'air très très bien là ce qui se passe à Madagascar. Et donc des tas d'interrogations qui ont commencé à se forger dans l'esprit des Occidentaux sur ce qui se passe à l'autre bout du monde. Mais je pense que la prise de conscience a été forte, rapide, et qu'aujourd'hui, toutes les sociétés, sans exception, recherchent la façon la meilleure de s'assurer de l'éthique de la provenance de leurs produits. Et ce n'est pas facile.
Et une question personnelle, Dominique Roch. Comment vous avez vécu pendant ces 35 ans vos passages d'une réalité sociale de pauvreté, disons-le, que ce soit Madagascar, on va en reparler par exemple avec les cueilleuses de vanille dans un pays d'une incroyable pauvreté, et puis vos retours dans le monde du luxe, des parfums de luxe. Ben, sincèrement, comment vous avez vécu
ça? Oui, alors je l'ai vécu en général bien, parce que j'avais l'impression qu'à chaque situation difficile à l'origine, j'avais trouvé ou j'étais en train de trouver l'interlocuteur local qui allait me permettre de faire le mieux possible. Et c'est les rencontres, on a parlé de celle de Francis, celle de Vesela et Nikolai en Bulgarie, il y en a plein d'autres. Quand on a un partenaire de qualité, qualité au vrai sens du terme, c'est-à-dire qui a la conscience de ce qui se passe dans son pays et qui agit en conséquence, on a fait plus de la moitié du chemin. Après, il y a des exceptions. Les deux grandes exceptions dans notre métier, ce sont les pays les plus difficiles, c'est Madagascar et Haïti, parce qu'à chaque fois, on va y chercher des produits très importants, Madagascar, notamment la vanille et l'ylang-ylang, et Haïti, le vétiver, qui est une matière première absolument extraordinaire. Et là, je le raconte un peu dans le livre, effectivement, en dépit des partenaires, en dépit de tout ce qui faisait d'extraordinaire, et notamment Gigi, dont je parle à Madagascar, au bout d'un moment, on se dit, mais honnêtement, qu'est-ce que je fais là? Honnêtement, qu'est-ce que je fais là? Mais la réponse, elle revient très vite, parce que, aussi pauvre, aussi coupé du monde que peuvent être les villages de Madagascar, très vite on se dit, mais les seuls gens qui peuvent faire quelque chose là, c'est de se débrouiller pour qu'on continue à mettre de la vanille dans les parfums et qu'on achète de la vanille. Et que plus on demandera de vanille, plus probablement les prix vont monter et que d'une façon ou d'une autre, le paysan va en être bénéficiaire. Donc moi j'ai vu ça, cette histoire-là à Madagascar, en dépit de l'incurie totale des autorités locales, et ça, c'est quelque chose de bouleversant.
Incurie, on peut dire corruption des autorités locales.
Et révoltant, et l'extrême absolu étant Haïti, où là, entre les drames du tremblement de terre ahurissant de 2014 et tout le reste, alors là, on est au bout du bout. Mais encore une fois, moi, j'allais au bout de l'île chercher du vétiver. La société qui était là-bas servait de tout, servait de banque, de soins pour les gens. Elle se suppléait complètement à l'État.
Haïti chérie, 1er janvier 1804, en 2004, 200 ans. Le soleil levé chaque jour, c'est raconté dans le paradis. Pour j'en belle fleur dans mon blaï, n'en qu'à tout le monde qui vive là-dedans. L'idée a une chance pour le décorer, avec pied coco et bol en mer. Belle fleur poussée dans chaque saison, qui empêche une partie qui t'aide. Haïti chérie.
Dominique Rock. On a parlé un peu de Madagascar, j'aimerais qu'on reste dans ce pays parce que c'est un pays qui vous a marqué, on le sent bien. C'est un pays où vous aimez aller pour rechercher la vanille, le ylang-ylang. Et là encore, des rencontres. Moi j'aimerais que vous nous parliez de ces rencontres parce que j'ai trouvé ces portraits d'hommes et de femmes qui s'engagent pour produire ces essences, ces plantes naturelles que vous utilisez dans le monde du parfum. Alors, parlez-nous de Gigi, la reine de la vanille.
Rencontre sacrée extraordinaire rencontre extraordinaire qui complète un peu la rencontre. Francis, il a mis ses idées en action.
Francis, c'était au Laos.
Ça, c'était au Laos. Et là, Gigi, c'est une autre histoire.
Fille du pays, elle.
Une petite fille. Métisse chinoise, les parents étaient de très humbles épiciers, une famille, ils étaient 10 enfants, elle était la dernière, elle a connu la vraie pauvreté. Et Gigi, très tôt, alors dans l'épicerie de la famille, on vendait quelques gousses de vanille, etc. Elle s'est demandé d'où ça venait, comment ses parents se procuraient. Et elle a commencé, pieds nus, à aller arpenter des villages de brousse pour voir découvrir la vanille. C'est compliqué l'histoire de la vanille, je ne veux pas prendre trop de temps au micro, mais aller chercher ces gros haricots verts qu'on va progressivement transformer en gousses noires et très odorantes. Et autrement dit, elle a connu dès l'âge de 10 ans ce que c'était que la réalité des planteurs de brousse, les villages qui n'ont pas d'eau, où le premier dispensaire est à 15 km quand il y en a, toute cette réalité. Et alors, comme elle, c'est une femme très énergique et très intelligente, elle a réussi progressivement, elle a monté un business, elle est devenue effectivement l'une des figure de la vanille à Madagascar, mais ce que j'ai découvert avec elle, et qui est extraordinaire, c'est qu'elle n'a jamais, jamais oublié ses débuts, d'où elle venait, les premières rencontres, et que dans chaque étape de développement de son business de vanille, elle a eu à cœur de faire quelque chose pour ses villages, et elle a fait énormément, énormément. Elle a fait creuser des puits pour que les gens aient de l'eau, elle a construit des dispensaires, elle a mis au point des pépinières pour offrir des sources de diversification aux villages qui faisaient que de la vanille. Enfin, la liste serait longue. Et donc, cette idée que sans l'apport de conseils ou même de financements occidentaux, elle ait réalisé ce parcours dans un pays aussi difficile, c'est juste admirable.
Il y a beaucoup, beaucoup de récits comme ça dans vos livres, Dominique Roque, c'est vraiment passionnant. Et j'aimerais qu'on parle maintenant des bois, de la forêt, parce que votre dernier livre s'intitule « Le parfum des forêts ». Alors, on vous suit toujours dans votre métier de sourceur pour aller chercher des essences de ces bois, mais vous parlez aussi, vous avez toute une réflexion sur notre relation avec la forêt. J'aimerais qu'on évoque tout ça. Le Liban, d'abord. Ça, c'est un pays aussi qui est dans une situation économique dramatique actuellement. Vous êtes parti là-bas et vous dites vraiment que la plus ancienne histoire de l'homme et de la forêt, ce serait le Liban, avec sa fameuse forêt de cèdres. Alors expliquez-nous ce lien qu'il y a dans cette longue histoire des hommes et de la forêt, au Liban en particulier.
Alors c'est tout à fait extraordinaire, l'affaire du cèdre du Liban. Souvent, pour faire comprendre aux gens, j'explique que pour moi, la naissance du parfum vraiment dans l'humanité, c'est l'affaire de la reine de Saba et du roi Salomon. C'est
la rencontre entre ces deux personnages.
Ça se passe en moins 900. La reine de Saba, elle vient, on ne sait pas très bien d'où, c'est un peu mystérieux, on est entre histoire et légende, c'est probablement une reine éthiopienne et qui vient du fameux pays de Punt que les Égyptiens gardaient un peu secret comme la source de l'encens. Elle arrive avec ses caravanes de chameaux chargées de quantités incroyables d'encens pour rendre hommage au roi Salomon qui, lui, dans le même temps, fait ce que son père David n'a pas réussi à faire. Il construit un palais et un temple et il le fait en cèdre. Et pourquoi est-ce qu'il le fait en cèdre? Souvent, on passe à côté de ça parce que le cèdre est un merveilleux bois de construction, mais aussi parce qu'il sent. Il sent divinement bon. Et donc, on imagine cette rencontre, on brûle l'encens de la reine de Saba dans un temple dont tous les panneaux des murs sont en cèdre et qui sent incroyablement bon. Autrement dit, la rencontre de l'odeur du bois et de l'odeur de la résine qui vient d'un autre arbre, pour moi, c'est la naissance de la parfumerie. Donc je voulais aller voir ce qui reste de la forêt de cèdre. Il en reste très peu de choses. Les très peu de choses sont admirables et d'une beauté qui vous renverse.
Parce que certains arbres ont...
Parce que certains arbres ont 2000 ans.
2000 ans. Hein.
Tout simplement. Et surtout, parce qu'il faut qu'on prenne conscience que dans le premier texte écrit de l'humanité qui est survécu, c'est-à-dire l'épopée de Gilgamesh, l'une des premières, Gilgamesh, un roi de Mésopotamie, l'une des premières choses qu'il veut faire, c'est aller couper les cèdres. Et alors, je ne rentre pas dans les détails, mais ce qui est bouleversant, c'est qu'au moment où Gilgamesh vainc le gardien de la forêt et coupe les cèdres, mais qu'est-ce qui se passe ? Dans ce récit d'humanité, c'est le moment où l'homme dit « Non, désolé, la nature sauvage, c'est fini. Maintenant, ça sera la forêt mine, la forêt ressource en bois. » C'est donc, on est en...
2500 moins, avant Jésus-Christ.
Quelque chose comme ça. Donc c'est une bascule fondamentale.
Oui,
fondamentale.
Mais qui est en même temps dramatique. Parce que comme vous le dites, ces montagnes du Liban qui étaient couvertes de cèdres, aujourd'hui, il reste 20 km carrés de cèdres, de réserve.
Alors
c'est dramatique. On a coupé quasiment l'intégralité ou presque l'intégralité de ces forêts.
C'est un symbole, et on pourrait en donner bien d'autres, de la relation primaire de l'homme avec la nature. C'est-à-dire la nature, elle est hostile, il faut la vaincre et elle est infinie. Et c'est quand même ce qui nous gouverne depuis toujours jusqu'au XXe siècle. Et on n'est pas sorti de ça, Et donc, c'est très bouleversant. Et on s'aperçoit, quand à l'occasion de cette visite au Cèdre du Liban, on se penche sur l'histoire d'un certain nombre d'autres forêts du monde, que finalement, même si quelquefois en Occident en particulier, on va penser à notre ami Colbert, qui a été un des grands protecteurs de la forêt, parce qu'à son époque, déjà, on s'est rendu compte qu'on avait tellement coupé qu'on manquait de gros bois pour faire des navires et des mâts. Donc Colbert va instaurer un système de protection des forêts qui dure toujours et qui nous a légué certaines des futaies qui servent à refaire la charpente de Notre-Dame aujourd'hui. Bon, donc très tôt, il y a une prise de conscience, mais quand on développe ça jusqu'à ce qui se passe dans les forêts tropicales aujourd'hui, on s'aperçoit que le problème n'est toujours pas résolu. Autrement dit, c'est ce que moi je traduis en disant, la réconciliation entre l'homme et les forêts, elle n'est toujours pas là.
Pas encore.
Pas encore.
Pourtant, vous dites que on a eu un regard sur les forêts comme étant des mines inépuisables. On a cru longtemps, et voire même encore dans certains pays, que ces forêts-là, elles sont inépuisables. Elles sont tellement grandes. L'Amazonie, il y a encore une trentaine d'années, pour beaucoup de personnes, c'était inépuisable. Cette immense forêt, on allait pouvoir couper dedans sans problème. Vous en parlez notamment en Guyane, par exemple, parce qu'on dit toujours l'Amazonie, on pense toujours aux Brésiliens, mais nous avons une partie de l'Amazonie qui est la Guyane. Et vous parlez notamment du bois de rose en Guyane. On a cru longtemps qu'on allait pouvoir servir ad vitam aeternam en bois de rose. C'est pas la réalité.
Mais voilà, c'est cette chose assez extraordinaire, c'est qu'au fil du temps, et là vous faites allusion au bois de rose, c'est une histoire du XXe siècle, enfin de la fin du XIXe, début XXe, Gilgamesh de 1500 ans avant, mais ce qui est fabuleux, c'est qu'à chaque fois l'histoire se répète. C'est-à-dire qu'on part de quelque chose de bien réel, c'est-à-dire que au fur et à mesure de la découverte du monde, les forêts ont toujours été l'endroit hostile, compliqué, l'endroit qui pouvait nous avaler, nous manger. Et donc,
excusez-moi, entre parenthèses, pour nous occidentaux,
bien sûr,
mais pour les Indiens d'Amazonie, comme on disait, la forêt, c'était leur lieu de vie, c'était leur paradis, entre guillemets.
Et toutes les civilisations qui se sont développées dans les forêts, notamment subtropicales et tropicales, ne coupaient pas les arbres. Ils organisaient leur vie en se servant de ce qui tombaient par terre, des arbres morts, et exceptionnellement, ils abattaient un arbre pour faire une pirogue. Mais autrement dit, il y avait une vie en symbiose avec la forêt qui n'a absolument rien à voir avec l'occidental. Mais ce que j'ai voulu raconter dans le livre, c'est que les occidentaux, bien sûr, mais ça a commencé très tôt, ça commence avec la civilisation. Parce que pourquoi est-ce qu'on a massacré la forêt de cèdre? Parce que c'était la première ressource en bois équidistante de la Mésopotamie et de l'Égypte, c'est-à-dire des deux berceaux de la civilisation. Donc c'est une histoire qui est liée à notre condition d'homme. Et où effectivement, on voit se répéter au fil des siècles et des différents massifs forestiers, toujours la même affaire. Il y en aura toujours. Ah, on se rend compte qu'il n'y en a plus et on s'arrête au 1%, au 3%, au 4% qu'on réussit à sauver.
Et est-ce que c'est trop tard ou est-ce que ce 1 ou ce 2% est le début d'une espérance et d'un renouveau?
Alors, je crois que c'est jamais trop tard et c'est aussi pas facile à faire passer comme idée. Même si la forêt de séquoia en Californie a pratiquement complètement disparu, ce qui reste est une splendeur. Ça permet à l'ensemble des visiteurs du monde d'aller réellement se rendre compte de ce que c'était que cette forêt primaire d'arbres millénaires gigantesques, merveilleusement beaux. Donc, ils ont réussi à préserver ça. Maintenant, c'est une affaire de temps. Ce que j'explique dans le livre, c'est que le divorce fondamental, l'altérité fondamentale entre l'homme et l'arbre, c'est l'affaire du temps. Les séquoias, un jour, ils repousseront. Mais il leur faut 2000 ans pour revenir à ce qu'ils étaient quand on les a enlevés. Les arbres qui poussent sur les ruines d'Amérique centrale des Mayas, ben voilà, les Mayas sont partis en l'an 900, et ben c'est la forêt qui a repris sa place. Et quand je parle d'éternité, de cette notion d'éternité des forêts, au fond c'est la grande question, l'homme est de passage sur Terre, les forêts nous donnent tous les signes d'être éternels. Donc, cette notion de la forêt jamais vaincue, toujours renaissante, elle est très très importante et elle doit nous rendre optimistes. Ce qui ne veut pas dire qu'on doit se conduire en irresponsable, mais même quand on le fait, même quand on n'a pas réussi à maîtriser des incendies absolument gigantesques, ben vous revenez un mois après et il y a déjà des petites pousses sous la cendre qui sont prêtes à repartir.
Hey Dominique Roque, ça n'a rien à voir avec les arbres, avec tout ce que vous venez de nous dire, mais je sais que vous aimez énormément Bob Dylan. Est-ce qu'on peut choisir, est-ce que vous pouvez choisir une chanson de Bob Dylan que vous avez envie d'entendre dans cette émission ?
Alors oui, et ça va m'évoquer des souvenirs du Liban. Je vais choisir Ring Them Bells, Sonner les cloches, une chanson extraordinaire, merveilleuse, très belle. Et ça me ramène dans les souvenirs d'une petite église dans un bosquet de cèdres sur les hauteurs du mont Liban où ma guide et amie Jumana s'est mise à sonner la cloche qui était là. Et pour moi, cette cloche sonnant dans ce paysage incroyable avec la Méditerranée au fond, ça m'a ramené à cette chanson.
Eh bien, nous l'écoutons.
Ring them bells, ye heathen from the city that dreams. Ring them bells from the sanctuaries across the valleys and streams. For the deep and the wide, and the world's on its side. And time is running backwards, and so is the bride. Ring them bells, St. Peter, where the four winds blow. Ring them bells with an iron hand so the people will know. Oh, it's rush hour now on the wheel and the plow. And the sun is a-going down upon the sacred cow.
Dominique Roque, après cette chanson de Bob Dylan, continuons notre voyage autour du monde avec vous. Je rappelle que vous êtes sourceur, c'est-à-dire que vous achetez des essences, des matières premières pour les parfums à travers le monde. Et alors, avec vous, je suis allé dans un pays, j'avoue que je ne connaissais pas, j'avais vaguement entendu parler de son nom, mais c'est un pays qui n'existe pas officiellement, le Somaliland. Je sais que ce pays... Vous avez voulu y aller depuis longtemps et c'était pas facile d'obtenir l'autorisation. C'est un pays dangereux. Pouvez-vous nous parler, nous présenter d'abord ce pays, le Somaliland ?
Le Somaliland, c'est un petit morceau de la corne de l'Afrique et c'est la terre de l'arbre à encens. Donc j'ai parlé des bouleversements émotionnels que ça m'a causé, la découverte de l'encens. Effectivement, il a fallu des années. Pour réussir à y aller, pour ça, il faut avoir un partenaire solide sur place qui soit capable de résoudre les différents obstacles qu'il y a pour un occidental d'aller là-bas. On fait le voyage escorté par deux gardes, chacun armé de sa kalachnikov. Mais au fond, comme souvent, quand on est sur place, les choses se passent très bien, les gens sont charmants, accueillants, etc. Alors, voyage extraordinaire, le Somaliland... C'est compliqué parce que c'est un morceau de la Somalie. En fait, il y a eu une guerre dans les années 90. Le Somaliland, c'est l'ex-Somalie britannique, qu'on peut opposer à l'ex-Somalie italienne. Et ce sont des tribus, des clans, des gens qui n'ont rien à voir avec leurs voisins de Somalie. Donc, mais rien à voir au point qu'ils se sont un peu massacrés quand même. Alors le Somaliland a gagné cette guerre, ils ont fait une frontière.
Qui n'est pas reconnue par les Nations Unies.
Et le pays n'est toujours pas reconnu par les Nations Unies, ce qui pose notamment des problèmes de ne pas avoir accès à toutes les aides internationales auxquelles ils pourraient légitimement avoir droit.
Donc, alors qu'est-ce que vous alliez chercher au Somaliland ?
J'allais à la recherche de l'arbre à encens, de l'arbre à encens. Et là je raconte dans le livre aussi que... Ça a été quelque chose de fantastique parce que je me suis retrouvé sur les traces d'Arthur Rimbaud, où tout d'un coup j'ai réalisé que les arbres à encens qu'on me faisait découvrir et qui me renversaient par leur beauté et par la puissance des larmes, du lait qui vient à la surface du bois, non seulement je réalisais que le jeune garçon qui faisait ce travail utilisait le même couteau au même endroit, dans les mêmes falaises, que ce qui se passait dans la nuit des temps. et que ça durait toujours de la même façon, ce qui est quand même inouï.
Et que Rimbaud a fait du commerce de cet encens aussi. Vous êtes mis sur les traces de Rimbaud.
Voilà, et quand Rimbaud allait d'Aden à Harar par les caravanes, il en a fait un certain nombre, y compris son dernier, sa caravane où il est si malade et où il rentre en France pour mourir, eh bien, je dominais du regard sur ma falaise arbre à encens précisément l'endroit où passaient ces caravanes. Et là, c'était franchement émotionnellement extrêmement fort. Pour un Français, je pense que Rimbaud ne laisse pas indifférent. Et moi, je lui voue un très très grand intérêt et passion. Donc, je trouve que tout ça rendait la chose hors du temps. Voilà, hors du temps.
Alors, c'est un peu le sentiment que j'ai eu dans votre vie incroyable de sourceur, Dominique Roque. C'est que j'ai l'impression que vous étiez à la fois bien dans le présent, parce que vous êtes un commercial, hein, vous étiez là pour acheter, soyons clairs, hein, faire du business, acheter ses produits, les revendre. Mais qu'en même temps, vous avez voyagé tout le temps, à la fois dans l'espace et dans le temps. J'ai l'impression que dans votre métier, vous étiez rattaché à des traditions qui se perdent dans la nuit des temps, et qu'en même temps, vous êtes là à travailler pour les grands parfumeurs, pour Hermès et d'autres.
Oui, alors je crois qu'on peut tout à fait faire ce métier en, si j'ose dire, en passant à côté de tout ce dont on vient de parler. Il faut une certaine forme de sensibilité pour percevoir ça et peut-être le ressentir. Partout, j'ai eu le sentiment de rencontrer des gens extraordinaires qui, pour moi, étaient les héritiers, continuaient à tisser la tapisserie qui, encore une fois, a des siècles ou des millénaires. Et ça, dans des endroits absolument extraordinaires sur Terre.
Mais c'est votre sensibilité qui a permis ça, cette relation que vous aviez avec ces hommes, ces femmes sur le terrain ?
Oui, ma sensibilité, d'accord, mais moi, tous les gens que j'ai eu l'occasion d'amener avec moi, je les ai embarqués dans cette sensibilité, parce qu'il suffit juste d'allumer les petites lumières en disant « Attendez, on va poser l'affaire de la qualité, l'affaire de la quantité, l'affaire du prix, on va laisser ça de côté une seconde, on va aller se balader, on va monter dans les arbres à encens, on va aller dans les champs à l'aube récolter les fleurs de rose quand la rosée les empêche de trop distiller au soleil et que c'est pour ça que c'est les meilleures fleurs du monde. Et puis on multiplie les exemples comme ça. Mmh. Et des choses toutes simples se transforment en des choses absolument hors normes, extraordinaires.
Et ça a changé, je dirais, le travail des nés que vous avez emmenés sur le terrain. Parce que vous l'avez fait quelques fois. Les nés sont dans leur laboratoire, ils sont là à savoir comment ils vont doser telle quantité de ces produits que vous leur ameniez, mais généralement ils sortent pas de leur laboratoire ou pour faire la communication très luxe de ces parfums qu'ils créent. Vous les emmenez sur le terrain, et là vous les emmenez dans des zones pas toujours faciles du terrain. Ça a changé leur manière de travailler. Alors, et de concevoir leurs parfums.
C'est très intéressant. D'abord, ce sont des gens qui de plus en plus sont évidemment demandeurs d'aller découvrir la source. Et parce qu'il se passe quelque chose de formidable, c'est que de découvrir une fleur, une écorce, un bois, une racine, avant même qu'elle soit transformée ou au moment de sa transformation, modifie leur sensibilité et leur perception de cette matière première. Et j'ai cet exemple que je raconte dans le livre qui m'a toujours beaucoup amusé. Mon ami, le maître parfumeur Jacques Cavalier, qui est le parfumeur aujourd'hui des parfums Louis Vuitton, on est allé ensemble en Égypte. Et quand j'ai vu Jacques se plonger la tête dans les grandes paniers en raffia dans lesquels les cueilleuses ramenaient les fleurs de jasmin, je sentais qu'il se passait plein de choses pour lui, qu'il gardait éventuellement, qu'il n'exprimait pas forcément, mais que je sais que depuis son travail avec le jasmin, que ce soit le jasmin de Grasse ou le jasmin d'Égypte, est différent. Ça a modifié sa sensibilité. Il a absorbé tout l'environnement, la beauté, la sympathie de ses femmes, les champs, l'environnement du delta du Nil, dans sa propre intégration de la note jasmin et la façon dont il la restitue dans ses parfums.
Vous dites, Dominique Roque, qu'il a fallu des décennies pour passer de la prise de conscience que la forêt n'était pas une mine à la forêt, finalement, doit être un jardin. C'est-à-dire, nous devons en prendre soin. Vous pensez que votre métier, le monde du parfum aussi, du luxe, peut permettre, je dirais, cette prise de conscience-là à une plus grande échelle et donc, d'une certaine manière, participer à la préservation des forêts, qui est un grand enjeu pour l'avenir.
Alors, oui, j'y crois. Ensuite, je crois qu'il faut rester modeste. Hein. Les forêts, c'est gigantesque sous toutes les formes à la surface du globe. Il n'y a pas que des arbres à parfum loin de là, même s'il y a du parfum partout. Mais je raconte dans mon dernier livre l'histoire extraordinaire du gaillac au Paraguay, qui est un arbre à parfum formidable, qui en plus est d'une beauté inouïe, puisque quand on le coupe, il devient bleu, et d'un bleu intense, donc ça, c'est aussi une expérience assez magique. Et là, réellement, l'industrie du parfum peut servir à freiner la déforestation du Chaco, qui est une déforestation tout à fait celle dont on nous parle constamment, c'est-à-dire on enlève la forêt considérée sans valeur pour la transformer en pâturage pour élever de la viande. Donc on est, je dirais, dans ce qui fait réagir, peut-être un des thèmes majeurs qui fait réagir les partisans de l'écologie et de la bonne gestion de la planète aujourd'hui, c'est-à-dire enlever de la forêt pour faire de la viande, alors qu'on sait quel en est le coût, non seulement en carbone, mais le coût global, ben, évidemment c'est très important. Alors, ces choses-là ne peuvent se faire qu'à l'échelle des besoins de la parfumerie, mais je pense que ça doit être un encouragement dans les deux sens, c'est-à-dire que ça devrait aussi de savoir que des gens sont capables, par un modèle de bonne exploitation d'un arbre, de peut-être donner un revenu aux détenteurs de cette forêt qui les dissuade de l'arracher, devrait encourager l'industrie du parfum à dire « Ah ben alors si on est capable de faire ça, il faut absolument utiliser de l'essence de gaillac le plus possible. » Oui, bien sûr.
Vous écrivez à la fin de votre livre « Cueilleur d'essence », vous écrivez ceci « La vraie révolution en marche est sans doute la collaboration sur le terrain des quatre acteurs de la chaîne du parfum, fermiers, distillateurs, créateurs et marques. La longue tradition de culte du secret dans la parfumerie commence à faire place à la transparence et à l'éthique. Enfin, c'est vrai qu'il y a toujours eu du secret. » Dans le monde du parfum, il est en train de disparaître ou il est en train d'évoluer ?
Il est en train d'évoluer. Traditionnellement, les Grassois, parce qu'il faut bien rappeler que Grasse a vraiment été le centre de la parfumerie mondiale pendant très très longtemps, les Grassois mettaient le même secret dans leurs formules, les formules de leurs parfums, que dans la façon dont ils s'approvisionnaient. Et je pense que on comprend pourquoi ils l'ont fait, ils voulaient protéger leurs sources, ils voulaient protéger leurs gains, mais qu'au fond, c'est quelque chose qui n'est plus vivable et qui a très longtemps permis de dissimuler des situations très mauvaises, des situations d'exploitation, appelons les choses par leur nom. Les sensibilités ont bougé, bien sûr, y compris celles de l'industrie, tout ça a évolué. Et donc, moi, j'ai participé à ce mouvement de lever le secret sur les sources des parfums du monde. Les sources de parfums du monde, c'est quelque chose de tellement beau, de tellement extraordinaire, qu'il faut évidemment les révéler, encourager les gens à y aller.
Parce que, d'origine, ces sources-là pourraient disparaître. C'est ça qu'il faut bien réaliser. Hein. Ces cueilleurs du Somaliland pourraient arrêter de récolter... Oui. Cet encens si rare et si précieux.
Et là-dessus, je donne l'exemple très, très impressionnant pour moi d'un baume aussi extraordinaire, le baume du Pérou. Ça se passe sur des arbres au Salvador où je raconte dans le livre comment les gémeurs montent à 20 mètres de haut, pratiquement nus, avec une torche allumée dans le dos parce qu'il faut aller brûler de l'écorce en haut de l'arbre. Comment, et on se pose la question, comment est-ce que ça a pu exister encore ? Il y a des presses, on dirait que ça a été monté par Christophe Colomb la semaine dernière. Comment faire pour que les enfants de ces gens-là continuent cette chose merveilleuse et magnifique plutôt que de descendre à la capitale, rejoindre les gangs de la drogue. C'est une vraie question. Et cette question, on peut la propager un peu partout. Elle se pose partout.
Dominique Roch, malheureusement, nous sommes à la fin de cet échange. J'aurais aimé continuer pendant des heures avec vous. Vraiment, je recommande vos deux livres, Cueilleur d'essence et votre nouveau livre, Le parfum des forêts. Dans l'un et l'autre, nous découvrons à la fois votre métier, des belles rencontres que vous avez pu réaliser au cours de cette vie professionnelle qui a été la vôtre. Merci beaucoup, Dominique Roch.
Merci à vous.
Visage, une émission proposée par Thierry Lyonnais, réalisation technique Philippe Faure.